par Carlo Caffiero. L'abrégé du Capital de Karl Marx par Carlo Caffiero. L'accumulation du capital, l'accumulation du capital, l'accumulation du capital, l'accumulation du capital. Si nous observons la formule du capital, nous comprenons facilement que la conservation de celui-ci repose entièrement sur sa reproduction successive et continuelle. En effet, le capital se divise, comme nous le savons déjà, en capital constant et capital variable. Le capital constant, représenté par les moyens de travail et les matières premières, subit une usure continuelle par l'effet même du travail. Les outils s'usent, les machines s'usent, ainsi que le charbon, le suif, etc., dont les machines ont besoin. Enfin, le bâtiment de la fabrique s'use. Les matières premières sont absorbées. Mais en même temps que le travail use de la sorte le capital constant, il le reproduit dans les mêmes proportions dans lesquelles il le consomme. Le capital constant se trouve reproduit dans la marchandise, dans la proportion en laquelle il a été consommé durant la fabrication de celle-ci. La portion de valeur consommée des moyens de travail et des matières premières est toujours exactement reproduite dans la valeur des marchandises, comme nous l'avons déjà vu. Si donc le capital constant est partiellement reproduit dans chaque marchandise, il est clair que dans la valeur d'un nombre donné de marchandises produites, on retrouve tout le capital constant consommé pour leur fabrication. Il en est du capital variable comme du capital constant. Le capital variable, celui qui est représenté par la valeur de la force de travail, c'est-à-dire par le salaire, se reproduit exactement, lui aussi, dans la valeur de la marchandise. Nous l'avons déjà vu. L'ouvrier, dans la première partie de son travail, reproduit son salaire. Et dans la seconde partie, il produit de la plus-value. Comme le salaire n'est payé à l'ouvrier que lorsqu'il a fini son travail, il se trouve qu'il ne touche son salaire qu'après en avoir déjà reproduit la valeur dans la marchandise du capitaliste. L'ensemble des salaires payés aux travailleurs est donc reproduit incessamment par eux. Cette incessante reproduction du fonds des salaires perpétue la sujétion du travailleur envers le capitaliste. Quand le prolétaire est venu sur le marché pour y vendre sa force de travail, il a pris la place que lui assigne le mode de production capitaliste, en contribuant à la production sociale pour la part qui lui est afférente, et en recevant pour son entretien du fonds des salaires une fraction du capital variable qu'il devra tout d'abord reproduire par son travail. C'est toujours la chaîne éternelle qui maintient la sujétion humaine, que ce soit sous la forme de l'esclavage, sous celle du servage ou celle du salariat. L'observateur superficiel croit que l'esclave travaille pour rien. Il ne réfléchit pas que l'esclave doit avant tout dédommager son maître de tout ce que celui-ci dépense pour l'entretenir. Et on observera que l'entretien assuré à l'esclave est parfois bien supérieur à celui dont le salarié est forcé de se contenter. Parce que le maître de l'esclave est hautement intéressé à la conservation de celui-ci, comme à celle d'une partie de son capital. Le serf, qui, ainsi que la terre à laquelle il est attaché, appartient à son seigneur, est, pour l'observateur superficiel, un être dont la condition est en progrès sur celle de l'esclave, parce qu'on voit clairement que le serf ne donne à son maître qu'une partie de son travail, tandis qu'il emploie l'autre partie à extraire du peu de terre qui lui est assigné ses moyens de subsistance. Et le salariat, à son tour, apparaît à l'observateur superficiel comme un état de beaucoup supérieur au servage, parce que le travailleur semble dans cet état parfaitement libre et qu'il a l'air de recevoir la valeur du travail exécuté par lui. Étrange illusion. étrange illusion. Si le travailleur pouvait effectivement réaliser pour lui-même la valeur de son travail, alors le mode de production capitaliste ne pourrait plus exister. Nous l'avons déjà vu. Le travailleur ne peut rien obtenir d'autre que la valeur de sa force de travail. Seule chose qu'il puisse vendre. Parce que c'est le seul bien qu'il possède au monde. Le produit du travail appartient au capitaliste, lequel paie au prolétaire le salaire, c'est-à-dire son entretien. De la même façon, le morceau de terre laissé au serf par son seigneur, ainsi que le temps et les instruments nécessaires pour le cultiver, représente la somme des moyens que le serf a pour vivre, pendant qu'il doit travailler tout le reste du temps pour son seigneur. L'esclave, le serf et l'ouvrier travaillent, tous trois, en partie pour produire ce qui est nécessaire à leur entretien, et en partie pour le profit de leur maître. Il représente trois formes diverses de la même chaîne de sujétion et d'exploitation humaine. C'est toujours l'assujettissement de l'homme dépourvu de toute accumulation antérieure, c'est-à-dire des moyens de produire qui sont les moyens de vivre, à l'homme qui possède une accumulation ancienne, les moyens de production, les sources de la vie. La conservation du capital, c'est-à-dire sa reproduction, et précisément, dans le mode de production capitaliste, la conservation de cette chaîne de sujétion de l'exploitation humaine. La conservation du capital, c'est-à-dire sa reproduction, et précisément dans le mode de production capitaliste, la conservation de cette chaîne de sujétion et d'exploitation humaine. Mais le travail ne reproduit pas seulement le capital. Il produit en outre de la plus-value, qui forme ce qu'on appelle la rente du capital. Si le capitaliste reporte chaque année tout ou partie de sa rente sur son capital, nous aurons une accumulation de capital. Le capital ira en s'accroissant. Par la reproduction simple, le travail conserve le capital. Par l'accumulation de la plus-value, le travail grossit le capital. Quand la rente s'ajoute au capital, cette rente se trouve employée, partie en moyens de travail, partie en matière première et partie en force de travail. C'est le surtravail passé, le travail passé non payé, qui grossit le capital. Une partie du travail non payé de l'année écoulée paie le travail nécessaire de l'année précédente. Voilà ce que réussit à faire le capitaliste, grâce à l'ingénieux mécanisme de la production moderne. Une fois admis le système de production moderne, entièrement fondé sur la propriété individuelle et sur le salariat, on ne peut rien trouver à redire aux conséquences qui en dérivent, dont l'une est l'accumulation capitaliste. Qu'importe à l'ouvrier Antoine que les 3 francs qui servent à payer son salaire représente le travail non payé de l'ouvrier Pierre. Ce qu'il a le droit de savoir, c'est si les 3 francs sont le juste prix de sa force de travail, c'est-à-dire s'ils sont l'exact équivalent des choses qui lui sont nécessaires pour un jour, si la loi des changes, en un mot, a été rigoureusement observée. Quand le capitaliste commence à accumuler capital sur capital, une nouvelle vertu qui lui appartient en propre se développe en lui, la vertu qu'on appelle l'abstinence, qui consiste à limiter le plus possible ses dépenses afin d'employer la plus grande partie de sa rente pour l'accumulation. La volonté du capitaliste et sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il représente. Il ne saurait voir dans sa consommation personnelle qu'une sorte de vol, d'emprunt tout au moins, fait à l'accumulation. Et, en effet, la tenue des livres de compte en partie double fait figurer les dépenses privées au passif comme somme due par le capitaliste au capital. L'accumulation, c'est la conquête du monde de la richesse sociale. En augmentant le nombre de ses sujets, elle étend la domination directe et indirecte du capitaliste que pousse une ambition insatiable. L'accumulation, c'est la conquête du monde de la richesse sociale. En augmentant le nombre de ses sujets, elle étend la domination directe et indirecte du capitaliste que pousse une ambition insatiable. L'accumulation capitaliste réclame une augmentation de bras. Il faut que le nombre des travailleurs s'accroisse pour qu'une partie de la rente puisse être convertie en capital variable. L'organisme même de la reproduction capitaliste fait en sorte que le travailleur puisse conserver sa force de travail, moyen de la nouvelle génération où le capital la prend pour continuer son œuvre de reproduction incessante. Mais le travail que le capital réclame aujourd'hui est supérieur à celui qu'il réclamait hier. Et par conséquent, le prix en devrait naturellement augmenter. Et les salaires augmenteraient en effet si, dans l'accumulation même du capital, il n'y avait pas une raison pour les faire au contraire diminuer. La portion de la rente qui s'ajoute annuellement au capital est convertie, nous l'avons vu, partie en capital constant et partie en capital variable, c'est-à-dire partie en moyens de travail et matières premières et partie en force de travail. Mais il faut considérer que, simultanément, avec l'accumulation du capital, se produisent les perfectionnements des anciens systèmes de production, les nouveaux systèmes de production et les machines, toutes choses qui font augmenter la production et diminuer le prix de la force de travail, comme nous le savons déjà. À mesure que croît l'accumulation du capital, sa partie variable diminue, tandis que sa partie constante augmente. C'est-à-dire qu'on voit augmenter les bâtiments, les machines avec leurs matières auxiliaires et les matières premières du travail, mais qu'en même temps, et à proportion de cette augmentation, avec l'accumulation du capital, diminue le besoin de la force de travail, le besoin de bras. Le besoin de force de travail diminuant, la demande, cette force diminue, et finalement le prix en diminue aussi. Il en résulte que plus progresse l'accumulation du capital, plus les salaires s'abaissent. L'accumulation du capital prend de vastes proportions au moyen de la concurrence et du crédit. Le crédit porte spontanément un grand nombre de capitaux à se fondre ensemble, ou plutôt à se fondre avec un capital plus fort que chacun d'eux en particulier. La concurrence, au contraire, est la guerre que se font tous les capitaux entre eux. C'est leur lutte pour l'existence, de laquelle sortent plus forts encore ceux qui, pour vaincre, avaient dû être déjà les plus forts. L'accumulation du capital rend donc inutile un grand nombre de bras. C'est-à-dire qu'elle crée un excédent relatif, non absolu, de population parmi les travailleurs. L'accumulation du capital rend donc inutile un grand nombre de bras. C'est-à-dire qu'elle crée un excédent relatif de population parmi les travailleurs. Et tandis que le progrès de l'accumulation de la richesse sur la base capitaliste produit nécessairement une surpopulation ouvrière relative, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l'accumulation. Une condition d'existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée industrielle de réserve qui appartient au capital d'une manière aussi absolue que s'il l'avait élevé et discipliné à ses propres frais. Elle fournit la matière humaine toujours exploitable et disponible pour la fabrication de la plus-value. C'est seulement sous le régime de la grande industrie que la production d'un superflu de population ouvrière devient un ressort régulier de la production des richesses. Cette armée industrielle de réserve, cette surpopulation ouvrière, revêt d'une manière générale trois formes qu'on peut appeler la forme flottante, la forme latente et la forme stagnante. La première forme est mieux payée. Elle souffre moins que les autres du manque de travail, tout en faisant un travail moins pénible. La dernière forme, au contraire, est composée de travailleurs qui sont occupés plus rarement que tous les autres, et toujours à un travail plus fatigant et répugnant, qui leur est payé au plus bas prix que puisse être rétribué le travail humain. Cette dernière forme est la plus nombreuse, non seulement à cause du gros contingent que lui envoie chaque année le progrès industriel, mais surtout parce qu'elle est composée de gens plus prolifiques, comme le fait même le démontre. Adam Smith dit « La pauvreté semble favorable à la génération. » C'est même là une disposition particulièrement sage de la Providence, selon le galant et spirituel Abbé Galiani. Dieu fait que les hommes qui exercent les métiers de première utilité naissent abondamment. Leng démontre par la statistique que la misère, poussée même au point où elle engendre la famine et les épidémies, tend à augmenter la population au lieu d'en arrêter le développement. Au-dessous de ces trois formes, il ne reste que le dernier résidu de la surpopulation relative, qui habite l'enfer du paupérisme. Abstraction faite des vagabonds, des criminels, des prostituées, des mendiants et de tout ce monde qui constitue à proprement parler le prolétariat des gueux, das Lumpenproletariat en allemand. Cette couche sociale se compose de trois catégories. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les statistiques du paupérisme anglais pour voir que sa masse s'enfle à chaque crise et diminue à chaque reprise des affaires. La seconde catégorie comprend les orphelins et les enfants d'indigents assistés. Ce sont des candidats à l'armée industrielle de réserve qui, aux époques de grande prospérité, sont enrôlés promptement et en masse dans l'armée active. La troisième catégorie comprend les déchus, les dégradés, les gens incapables de tout travail. Ce sont, d'une part, ceux que la division du travail a privés de l'occupation qui les faisait vivre, puis ceux dont l'âge a dépassé la limite normale de la vie de l'ouvrier. Et enfin, les victimes de l'industrie, dont le nombre va croissant, avec celui des machines dangereuses, des exploitations minières, des fabriques de produits chimiques, etc. Estropiés, malades, veuves. Le paupérisme est l'autel des invalides de l'armée active du travail et le poids mort de l'armée industrielle de réserve. Il est produit par la cause qui engendre la surpopulation relative. Sa nécessité résulte de la nécessité de celle-ci. Il forme, comme elle, une condition d'existence de la production capitaliste et du développement de la richesse. On comprend donc toute la sottise de la sagesse économiste qui prêche aux ouvriers d'accommoder leur nombre aux besoins du capital. C'est le mécanisme même de la production et de l'accumulation capitaliste qui accommode constamment ce nombre à ses besoins. Le premier mot de cette accommodation, c'est la création d'une surpopulation relative ou armée industrielle de réserve. Son dernier mot, c'est la misère de couches toujours croissante de l'armée active du travail. C'est le poids mort du paupérisme. La loi en vertu de laquelle le développement de la force productive sociale du travail fait diminuer progressivement la dépense de force de travail, en raison de l'efficacité accrue et de la masse augmentée des moyens de production, cette loi, qui met l'homme social en état de produire davantage avec moins de travail, aboutit en régime capitaliste, où ce ne sont pas les moyens de production qui sont au service du travailleur, mais bien le travailleur qui se trouve au service des moyens de production, à cette conséquence toute contraire, que plus les moyens de production gagnent en ressources et en puissance, plus le nombre des ouvriers sans emploi augmente, et plus devient précaire, par conséquent, la condition d'existence du salarié, la vente de sa force de travail. L'analyse de la production de la plus-value relative a montré que toutes les méthodes pour accroître la force productive du travail se développe en régime capitaliste aux dépens du travailleur individuel. Que tous les moyens pour augmenter la production se transforment en moyens d'asservissement et d'exploitation du producteur. Qu'il mutile l'ouvrier en faisant de lui un homme fragmentaire. Le dégrade à la qualité de simple appendice de la machine. Qu'il enlève au travail son contenu et en font une souffrance. Qu'ils isolent l'ouvrier des puissances intellectuelles de la production, la science devenant à son égard une puissance étrangère et hostile. Qu'ils rendent de plus en plus anormales les conditions dans lesquelles il doit travailler. Qu'ils le soumettent durant le travail à un despotisme aussi mesquin que haïssable. Qu'ils allongent pour lui la durée de travail au point de ne plus lui laisser le temps de vivre. Qu'il jette sa femme et ses enfants sous les roues du char de Jaggernaut du dieu capital.